d'échange qu'elles nous ont apporté vers Dieu. Je pense que même si la technique ne marche pas, c'est pas très grave, parce qu'à la fin, c'est vers Dieu que vont nos chants. Et la louange, c'est une attitude de cœur. C'est pas nécessairement chanter des chants, mais c'est vraiment pouvoir tourner notre attention et nos cœurs vers Dieu. Alors soyons encouragés, parce que c'est ce qu'on a fait ce matin. Je le sens vraiment, Dieu est là. Et ce matin, j'ai envie de parler du pardon, de l'importance du pardon pour mener une vie épanouie. Alors parfois ça fait un petit peu peur quand on aborde le pardon, parce qu'on peut peut-être se sentir accusé, mais c'est pas du tout le but de cette prédication. Le but du message que Dieu a pour nous ce matin, je pense, c'est de pouvoir nous aider à vivre des vies épanouies, à vivre des vies où les choses se passent bien. Juste avant de passer dans le vif du sujet, je voudrais pouvoir rappeler un sujet de prière. Je pars en Inde du 18 au 27 décembre et j'ai besoin de vos prières. Alors si vous avez à cœur de prier pour moi pour ce voyage missionnaire, j'ai reçu l'horaire ministériel, je vais prêcher tous les jours, parfois deux fois par jour. Donc je sais d'ores et déjà que j'aurai besoin vraiment de la force de Dieu. On va aussi aller distribuer des cadeaux et prier pour des gens qui sont mentalement malades et aussi pour des lépreux. Donc c'est quelque chose que j'ai jamais fait avant. Donc prier que tout puisse bien se passer et qu'on puisse vraiment voir la puissance de Dieu. J'ai partagé au pasteur qui m'accueille que moi, si je venais tout seul, ben, je ne vois pas vraiment ce que je pourrais leur apporter, mais je sens vraiment que Dieu m'envoie. Et ça, c'est un bon sentiment, parce que je sais que Dieu a des choses à leur apporter. Amen. Alors ça, c'est une bonne chose. Pour ceux qui le veulent, la semaine prochaine, j'organise mon anniversaire. Vous êtes tous conviés. Vous avez Pascal à les heures de passage, entre midi et 14h pour les gens de l'église. Voilà l'importance de pardon. On a reçu le pardon de Dieu lorsqu'on a vécu les trois stades de la vie chrétienne, trois stades de la conversion. Les trois stades de la conversion sont rédemption, purification et louange. Alors de quoi est-ce que je parle exactement? Eh bien oui, quand nous arrivons devant Dieu, nous devons avoir les mains pures pour lui donner une louange. Hein. Nous devons être un peuple qui est pur, qui a les mains pures. Donc pour pouvoir louer Dieu, il faut être purifié. Et pour pouvoir être purifié, il faut avoir été racheté. Alors ça, c'est les trois stades vraiment de ce qui fait notre transformation avec Jésus, c'est qu'on arrive devant lui tel que nous sommes. Il nous rachète, et par ce rachat à la croix, nous sommes purifiés, et à travers cette purification, on est capable de pouvoir lui présenter des mains pures. Et je voudrais bien me concentrer sur le premier et le deuxième point de cette vie chrétienne, c'est le rachat et la purification. Pour l'amour de ton nom, ô Éternel, pardonne mon péché qui est si grand. Psaume 25, pardonne-nous nos torts envers toi comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous, Matthieu 6. On peut pardonner les gens autour de nous et vraiment casser la spirale du conflit qui peut se trouver dans nos vies. Alors, si on lit un peu la parole, on peut se sentir un petit peu dans un cul-de-sac, parce que je vais vous lire un passage qui est parfois un peu difficile à comprendre, Marc 11, 25-26. Et lorsque vous êtes debout faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, il ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors quel verset un petit peu difficile, mais ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que le pardon fait partie du caractère de Dieu. Le pardon fait partie du caractère de Dieu, et dans la relation qu'il établit, il a envie de pouvoir définir, écoute, s'il y a une relation avec moi, le pardon il est sur la table. C'est pas quelque chose qu'on peut faire sans. Le pardon est sur la table. Alors souvent, ça nous fait peur parce qu'on confond pardon et réconciliation. On confond les deux. Il n'y a aucune réconciliation qui peut prendre place s'il n'y a pas eu du pardon qui est arrivé. Hein? La réconciliation, c'est envers l'autre personne qui nous a enfoncé. Le pardon, c'est entre nous et Dieu. Je conserve mon amour jusqu'à la millième génération. Je pardonne le crime, la faute et le péché, mais je ne tiens pas coupable pour innocent, et je punis la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la troisième et même la quatrième génération. Pardonne, je te prie, la faute de ce peuple en vertu de ton immense amour, comme tu n'as cessé de pardonner à ce peuple depuis qu'il est sorti d'Égypte. Dieu pardonne même les péchés qu'on ne connaît pas. Qui connaît tous ces faux pas? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. David qui dit ça dans le psaume 19. Mais toi, Seigneur, notre Dieu, tu as la pitié et tu pardonnes alors que nous nous sommes révoltés contre toi. Daniel, à présent, je t'en prie, pardonne ma faute et reviens avec moi pour que je me prosterne devant toi. Je sais que le pardon, c'est parfois difficile à pratiquer, mais je remarque qu'il est parfois difficile à pratiquer parce qu'on a difficile à le comprendre. En réalité, ce mot simple, pardon, hein, il y a une réalité aussi bien d'un point de vue théologique que psychologique. Est-ce qu'on peut tout pardonner? Est-ce qu'on peut tout pardonner? Est-ce que la puissance de notre foi dépend du pardon dans ce domaine? Est-ce qu'il existe des conditions au pardon? Parce que Dieu nous pardonne, nous devons pardonner. C'est une conséquence du pardon reçu. Matthieu 18, 23, 35, c'est une marque et une mesure de notre propre expérience de la grâce de Dieu. Alors on peut se demander, mais pourquoi est-ce que moi je dois pardonner? Ben parce que Dieu nous le demande, c'est un acte de soumission au Seigneur, première chose. Pourquoi est-ce que moi je devrais pardonner? Parce que simplement Dieu me l'a demandé et je veux être soumis à sa volonté. Deuxième point, c'est parce que pardonner, c'est imiter Dieu. Hein, si ça fait partie de son caractère, on est appelé à être des imitateurs de Dieu, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Hein, Éphésiens chapitre 4 et 5. Pardonner, c'est pouvoir revêtir l'homme nouveau et entrer dans notre identité en Christ. C'est vraiment important pour nous de pouvoir fonctionner dans cette identité en Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà eu parfois des moments dans vos vies où vous voulez arrêter un comportement malsain, arrêter peut-être quelque chose ou changer d'attitude, changer de cœur, et c'est difficile. C'est par notre propre force, on n'y arrive pas. Ce que l'on remarque souvent avec Jésus, c'est qu'il nous amène à une transformation intérieure pour qu'on se trouve devant ces choses qui nous tentaient avant. La seule réponse qu'on a donnée, c'est plus moi ça. C'est pas moi. Ça ne m'intéresse plus. Il y a une différence fondamentale entre être capable de résister à quelque chose et dire juste, en fait, c'est pas moi ça. C'est pas ça me. Moi, je suis quelqu'un d'autre en Dieu. Le premier, c'est qu'il y a un changement de comportement. Le deuxième, c'est qu'il y a un changement au niveau de l'âme. Hein? Dieu fait pas des changements de comportement. Il fait des changements d'âme. Il guérit les âmes. Grosse différence. On doit croire que Dieu donne à notre personne. Nous qui sommes habités par le Saint-Esprit, on doit croire que Dieu nous donne les ressources intérieures pour le pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on refuse de pardonner? Mais le refus de pardonner, et j'ai bien mis en évidence la différence entre pardon et réconciliation, ce qui se passe quand on refuse de pardonner, c'est que ça nous éloigne de la communion avec Dieu. Ça nous éloigne de la communion avec Dieu. Dans le Notre Père, nous demandions à Dieu de nous pardonner nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Également, Matthieu 6 dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, notre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Je pense que quand Jésus parle de ça, il ne parle pas du pardon salutaire de Dieu. Hein? Le pardon salutaire de Dieu est obtenu en croyant que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort à la croix pour nos péchés. Ça, c'est quelque chose qui est acquis sans condition. Mais ce que Jésus a l'air de décrire, c'est qu'il y a une communion avec le Père en tant qu'enfant qui est possible. Qu'il y a une communion entre nous et Dieu. Et que quand on est offensé, on doit comprendre que le non-pardon est parfois un obstacle à nos prières et à la bénédiction de Dieu sur nos vies. Alors que le pardon va nous introduire dans une intimité nouvelle avec le Seigneur, rendre notre prière efficace et libérer l'action de Dieu dans notre situation. Et il est vrai qu'il est difficile de pardonner sans qu'on se sent pardonné en premier. Je ne sais pas si c'était dans les situations, peut-être en tant que couple ou dans votre vie, où c'était difficile de pardonner à des gens leur comportement. Alors si on regarde un peu ce que les psychologues disent, aujourd'hui ils disent parfois que le pardon en fait c'est un muscle. Le pardon c'est un muscle. Qu'on peut faire grandir ce muscle du pardon. Alors, qui de mieux que les chrétiens pour devenir les gens les plus musclés de la terre? N'est-ce pas, Francesco? Hein? Hein? Nous devons pouvoir muscler notre pardon, et au plus on entre comme ça dans cette attitude de pardon, au plus notre muscle du pardon grandit. Et ça devient presque un acquis, quelque chose qui transpire dans nos vies. Alors oui, nous en tant que chrétiens qui sommes renouvelés par l'Esprit, on est non seulement capable de pardonner, mais au plus on pardonne, au plus ça devient facile de pardonner. Parce qu'on a une bonne compréhension du pardon. Parce qu'on comprend à qui on pardonne et pourquoi on pardonne. Maintenant, c'est vrai, il est difficile de pardonner tant qu'on ne se sent pas pardonné. Il est difficile de comprendre le pardon tant qu'en nous, on ne sait pas pardonner ou on n'a pas reçu le pardon de Dieu. Le sacrifice de Jésus nous pardonne tous nos péchés. Tu es pardonné. Même s'il t'arrive de pécher encore dans le passé, le présent, le futur, toute notre vie, on est sous la puissance du sacrifice de Jésus à la croix et on peut vraiment se sentir pardonné, accepté. Jean 3, 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. On se souvient souvent de Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et on oublie Jean 3, 17. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Tu as reçu le pardon de Dieu. Est-ce qu'il y a des choses dans nos vies qu'on regrette? Moi, je me rappelle, pendant très longtemps, j'avais fait quelque chose quand j'étais adolescent, je le regrettais. Ça pesait en moi, c'était vraiment quelque chose de difficile, j'arrivais pas à me pardonner. Un comportement comme ça, stupide. Et j'avais du mal à me pardonner, presque honteux. Même honteux. Est-ce que tu sais que ta honte a été crucifiée à la croix avec Jésus? Je me rappelle, on était à la pastorale il y a quelques semaines, et il y avait un homme qui était pasteur pendant longtemps, et ça peut vous sembler bizarre, mais pendant son pastorat, il était alcoolique pendant 12 ans, c'est ça Pascal, plus ou moins 12 ans d'alcoolisme profond. Donc l'alcoolisme, c'est une dépendance. Et donc il menait vie d'église et sa dépendance à l'alcool profond. Quelque chose vraiment, vraiment, une histoire vraiment où il était vraiment au fond du trou. Il l'a dit lui-même et il a une magnifique histoire de comment Dieu a rétabli les choses, l'a délivré de l'alcool. Mais il a reçu non seulement le pardon de Dieu, mais aussi le pardon des hommes à ce niveau-là. Son église l'a pardonné. Il a vraiment une très belle histoire. C'est le chanteur principal du groupe Jude 25. Et à un moment donné, il disait « Je vous raconte, mais je n'ai pas honte. » Parce que la honte, elle a été crucifiée à la croix de Jésus. Ah, quelle pensée formidable. Amen. De pouvoir regarder son passé. Et quand l'ennemi vient nous accuser, « T'as vu ce que t'étais? T'as vu ce que t'as fait? T'as vu ce que tu fais encore ?» De pouvoir lui rappeler la honte, elle a été crucifiée là. Alors, hors de ma vue, Satan, je ne crois pas tes mensonges. Amen. Alors peu importe les fautes qui nous ont, peut-être qu'on l'a peut-être commis, les fautes qu'on les autres ont commis, peu importe le chemin qu'on a pris pour arriver jusqu'ici dans notre vie, le pardon et la honte. On a reçu le pardon et la honte est partie. Beaucoup de chrétiens vivent dans la crainte et luttent pour chercher à survivre alors qu'ils pourraient jouir les bienfaits de la paix. On est parfois encore entre guerre, contre des sentiments de condamnation, d'indignité et de crainte alors qu'on est libre. La croix du Seigneur Jésus est la déclaration de notre liberté. Amen. Paul, un exemple biblique, c'est Paul, bien sûr, qui nous exhorte à pouvoir suivre son exemple et à nous réjouir du plein pardon. Alors, si on peut voir quelqu'un qui avait de la culpabilité, c'était Paul. Il dit, « Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Hein? Paul a compris que la place de la culpabilité dans sa vie pouvait être mise à la poubelle parce que à partir du moment où il culpabilise pour quelque chose dont Dieu l'a pardonné, le sacrifice de Jésus ne servait plus à rien. Et Paul, quand il se décrit lui-même, s'appelle parfois le plus grand des pécheurs. Alors je suis certain qu'on compare les gens à l'époque qui avaient plus grand pécheur que Paul. Pour rappel, l'apôtre Paul, avant de venir à l'évangile, avait persécuté, tué des chrétiens, avait reçu des lettres des autorités religieuses juives pour persécuter l'église des premiers jours. Donc Paul avait vraiment de la culpabilité justifiée. Hein. Maintenant, je suis certain qu'il y avait plus grand pécheur que lui. Mais il se déclare comme ça le plus grand de tous les pécheurs. Mais il dit qu'il reçoit le pardon de Dieu. Sa grâce pour moi n'a pas été vaine. Sa grâce pour moi n'a pas été vaine. J'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier de toute sa bonté pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Amen. Amen. Non seulement recevoir le pardon de Dieu est quelque chose qui est bon pour nous, mais c'est aussi bon pour les autres. Parce que c'est un témoignage de dire, oh, cette personne-là, je sais ce qu'elle, je sais par quoi elle est passée. Je sais quelle dépendance elle avait. Je sais quel schéma toxique elle se trouvait. Et pourtant, je vois où vit sa vie aujourd'hui. Il vit une vie de victoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Les circonstances de vie, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je voyais cette personne-là, c'était terminé pour elle. Plus personne n'allait parier sur elle. Et pourtant, aujourd'hui, il prospère. C'est des questions comme ça que les gens peuvent se poser. La culpabilité est une force destructive qui nous paralyse. Satan ne peut pas nous empêcher de nous pardonner nous-mêmes. Son but, c'est de nous empêcher de jouir pleinement notre salut et de pouvoir être utilisé par Dieu. Le Satan veut t'empêcher de vivre une vie pleine. Il veut t'accuser. Il veut que tu puisses rester dans tes schémas négatifs. Mais en recevant ce pardon, en recevant l'acceptation de Jésus, on peut pouvoir se sentir digne et arriver vers Dieu avec des mains pures, parce que ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de lui et de sa bonté. De pas ce que moi j'ai fait ou pas fait, mais de ce que lui a fait à la croix, de ce qu'il n'a pas fait pendant sa vie. Alors on peut vraiment se sentir racheté, hein? On peut vraiment se sentir purifié, et on peut amener devant Dieu des offrandes de bonne odeur, avec des mains pures devant lui. Seigneur, je t'aime, je suis passionné par toi. Et le livre des Colossiens nous rappelle que les conséquences de la compréhension de l'amour de Dieu pour nos vies, c'est de pouvoir être chargé d'œuvres justes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on comprend, où on a une rêve, Paul prie pour les Colossiens et dit: je prie que vous ayez une révélation de l'amour de Christ pour vous. Une révélation de l'amour de Christ pour vous. Et que ceci, la conséquence de ceci, il dit, c'est que vous allez être chargé d'œuvres justes pour le jour du Seigneur. Donc, en tant que chrétien, c'est pas faire des œuvres justes, c'est comprendre l'amour de Dieu et le recevoir. C'est plus qu'un discours intellectuel, mais c'est quelque chose que je vis dans ma vie. Et à travers cette relation-là, à travers cette compréhension de à quel point Dieu m'aime, eh bien, il y a un changement de comportement qui est fait, parce que mon âme est réparée. Amen. Parfois, il est important de remettre l'église au milieu du village, sans vouloir faire de blagues. Hein, parfois, il est important de pouvoir remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire, en tant que chrétien, c'est pas changement de comportement, je m'approche de Dieu, c'est je m'approche de Dieu et il y a un changement de comportement. Alors, je rappelle à tous ceux qui s'en sentiraient peut-être pas assez bien pour venir à l'église, qu'il n'y a personne qui doit être bien pour venir à l'église. Jésus, il était assez bien pour ouvrir les portes de l'église pour tout le monde. Amen. Amen. Maintenant, passons à la pratique de pardon. Il ne faut pas vouloir, il ne faut pas pouvoir, mais vouloir. Je m'emmêle les pinceaux. Certains diront: Benjamin, c'est bien, c'est gentil, tout ça, mais moi je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas. Eh bien, formidable, la première question, c'est pas de pouvoir, mais de vouloir. Celui qui peut en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui peut, c'est lui la puissance qui a le pouvoir de pardonner. Donc on résiste à la décision de pardonner, on n'est pas dans le vouloir. Dieu est venu nous amener dans le vouloir pour qu'il puisse mettre en nous l'amour nécessaire à acter le pardon dans nos vies. Lisons un peu une histoire dans la Bible qui se situe Matthieu chapitre 18, à partir du verset 23 à 35. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Alors, peut-être cette histoire que je raconte vous paraît choquante, mais à l'époque, si on ne remboursait pas une dette, on pouvait être vendu comme esclave, ainsi que sa femme et ses enfants. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit: « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est marqué que le serviteur devait 10 000 talents. Un talent, c'était le salaire normal d'un an de travail. Donc il aurait fallu qu'il travaille 10 000 ans pour pouvoir tout rembourser. Le maître était sans doute tout à fait au courant que même toute une vie ne permettrait pas de pouvoir effacer cette dette. Mais ému de compassion, le maître de ce serviteur lui laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Donc moins qu'un talent, 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait, disant: « Paie-moi ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le supplia, disant: « Aie patience envers moi et je te paierai. » Hein, le serviteur avait cette capacité de le rembourser. Mais l'autre ne le voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il payait ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui est arrivé, furent profondément attristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Le refus du pardon nous livre à des tourments. La parabole du serviteur impitoyable se termine dans les tourments. Le maître livre le serviteur au bourreau, impitoyable, qui refuse de pardonner et d'offrir la grâce à qui lui-même l'a reçue. Quels sont les bourreaux qui tourmentent ceux qui ne pardonnent pas? L'amertume, la haine, la rancune, le désir de vengeance, la pitié de soi, l'esprit de jugement. Voilà les bourreaux à laquelle on est offert. On est allé alors livré au tourment de ces bourreaux, on est prisonnier de ces pensées et de ce sentiment qu'on ne veut pas pardonner. Ils vont vous tourmenter et vous détruire. Et alors c'est vrai qu'au départ, ces murs-là, ça nous protège de l'autre personne. Hein? Si je suis dans vraiment juste, moi je suis gentil, elle est méchante, ça protège, ça fait quelque chose d'assez polarisant. Voilà, on est les gentils, c'est les méchants, c'est fini. Voilà, il faut travailler en politique. C'est comme ça, c'est tout. Eh bien, au début, ça va peut-être nous protéger, mais à un moment donné, ces bourreaux-là vont commencer à nous consumer. Et Dieu n'a pas envie de voir ça arriver dans nos vies. Alors, il nous encourage à pouvoir dépasser ça et à pratiquer le pardon. Le refus de pardon, ça infeste ceux qui nous entourent. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Le manque de pardon va infecter les autres. Les racines d'amertume. Dieu ne veut même pas qu'on arrive au moment où il faut enlever la haine, l'amertume et tout ça. Les racines. Il veut qu'on attaque aux racines. Alors là, ça nous rappelle à quel point la relation avec Dieu est importante. Parce que c'est le Saint-Esprit qui peut venir sentir les racines, qui peut venir les enlever. Et à nouveau, à partir du moment où on ne sent pas la force de pardonner, à partir du moment où on ne se sent pas capable de pouvoir pratiquer ce commandement biblique qui fait partie du caractère de Dieu, c'est à ce moment-là qu'on se met devant la croix et qu'on ne vient pas avec le pouvoir, je peux, mais avec le vouloir, Seigneur, je veux. Je veux pardonner, ne fût-ce que pour t'imiter. Je veux pardonner, ne fût-ce que pour t'obéir. Je ne suis pas capable de pardonner cette personne. Moi, je me rappelle, il y a quelqu'un de très proche de moi qui pendant de nombreuses années, a des paroles assez dures et un comportement assez destructeur envers moi parfois. Et c'est difficile à vivre d'avoir quelqu'un de proche de soi qui fait du mal. Et je peux avoir de la compassion et pouvoir voir, oui, cette personne me fait du mal, je peux mettre des raisons derrière, je vois d'où elle vient, de ce qu'elle a vécu. Et je peux vraiment mettre des raisons pourquoi son comportement est un petit peu autodestructeur. Et quand elle va mal, elle détruit les autres. Mais ça n'empêche que parfois, la douleur est là. Et que c'est difficile de pratiquer le pardon. De dire, ok, non, je te laisse les choses. Mais si on ne le fait pas, je me rends compte qu'on se s'enferme nous-mêmes dans notre propre prison. Alors pour passer à la suite, de façon souvent inconsciente, la personne qui n'a pas pardonné, qui n'a pas coupé avec son passé, on reproduit ça dans notre couple, dans notre famille, dans nos amis. C'est souvent le constat tardif des gens qui se rendent compte qu'ils ont besoin de pardonner. C'est qu'ils ont vu que ça a affecté beaucoup de zones de leur vie et ils veulent sortir de ce schéma-là. Mais c'est peut-être parfois un peu tard parce que les racines ont poussé, sont devenues un arbre. Alors, le pardon, c'est vraiment nécessaire à la réconciliation. Vous savez bien distinguer les deux, le pardon est nécessaire à la réconciliation. On ne va jamais loin dans la relation, dans une relation, que ce soit romantique ou amicale ou familiale, on ne va jamais loin dans la relation sans l'exercice du pardon. Si on n'arrive pas à pardonner, on ne va pas très loin. On ne pourra jamais construire des relations profondes et durables si on ne sait pas pardonner. Hein? Si on regarde les gens autour de nous, nos frères, nos sœurs, familiales, d'église, des amis, d'un conjoint, si on ne pratique pas le pardon, la relation va manquer de profondeur. Elle va vraiment manquer de profondeur. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsqu'on était encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu parce que notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Dans le pardon, Dieu, il a un but, c'est la réconciliation. Dieu ne s'est pas arrêté au pardon. Il voulait se réconcilier avec nous. Il voulait restaurer, rétablir la relation. C'est ça la réconciliation, c'est rétablir la relation. Alors peut-être qu'il y a des cas où la réconciliation n'est pas possible, me direz-vous. Je pense que ce que le Saint-Esprit veut nous voir faire, ce que Jésus veut nous voir faire, c'est de pouvoir être un reflet de l'amour de Jésus à la croix. De pouvoir parfois, dans des situations où le pardon ne devrait pas prendre place parce que la justice a été bafouillée, trichée, on est légitimement accusé. Moi, je pense que Dieu veut qu'on puisse être un reflet de l'amour de Jésus dans la vie des autres et de pouvoir offrir un pardon à quelqu'un en disant, tu ne me dois plus rien, parce que Jésus a fait des grandes choses pour moi. Ce que Jésus met en avant, c'est pas ce que l'autre personne a fait, c'est pas le fait qu'elle vient nous demander pardon, c'est pas le fait qu'elle entre dans un chemin de repentance, mais c'est parce que Jésus a fait pour moi est tellement grand que moi je laisse les dettes que les autres me doivent. Moi je ne veux plus traiter qu'avec Dieu. Je remets toute justice entre ses mains. Je remets toute chose entre ses mains. Quel message un peu extraordinaire. Alors qu'on était bloqué dans le relationnel avec juste deux personnes, Dieu s'amène avec ses gros sabots et dit, voilà ce que moi je donne. Je vous encourage à pouvoir vraiment pratiquer le pardon à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Pas à cause de l'autre personne, pas à cause de moi, pas grâce à moi, mais vraiment, ok. Moi j'ai reçu le pardon de Dieu, alors je vais le donner aux autres. Et il faut se rappeler que c'est un muscle. Parlons réconciliation avant pardon. Si on essaie de se réconcilier avant de pardonner, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Si on voit une personne blessée et qu'on l'amène trop vite à penser à réconcilier sans un travail préalable, elle risque de ne pas pardonner ou de donner un pardon bon marché qui ne créera pas les conditions à une vraie réconciliation. Une démarche de pardon, ça commence par une démarche personnelle devant Dieu, avant d'être une démarche personnelle extérieure envers l'offenseur. Si on voit quelqu'un qui chemine dans un état de pardon, il faut respecter son état. C'est un processus, le pardon. Parfois, on peut être vite en tant que chrétien, aller dire, il faut pardonner, t'es chrétien, pardonne. Le pardon, c'est un processus. Le pardon, c'est le Saint-Esprit qui arrose, qui fait grandir une plante, qui déracine. Il y a souvent des étapes où c'est le Saint-Esprit qui va agir. Et bien sûr, il y a une question, c'est jusqu'où pardonner, est-ce qu'il y a des limites? La mesure de la grâce, c'est la grâce de Dieu. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé, Romains 5, 20. La grâce de Dieu est plus forte, plus grande que le péché. Pardonner, est-ce que c'est oublier l'offense? L'Écriture dit que Dieu ne se souviendra plus de nos péchés, car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Qui est semblable à toi, toi qui pardonnes l'iniquité et qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Autant l'Orient éloigne de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Le pardon, c'est parfois une notion qui est très mal comprise chez les non-chrétiens comme chez les chrétiens. Le petit Robert nous donne une définition, pardonner c'est tenir une offense pour non advenue, pas arrivée, inexistence, renoncer à tirer vengeance d'eux, oublier, remettre passé, absoudre, gracier. Ce qu'il faut un petit peu savoir, c'est que pardonner, c'est pas toujours oublier, mais si tu vis une vie dans le pardon, il est possible que tu oublies ce que quelqu'un t'a fait parce que tu lui as pardonné. Ça ne te traumatise plus, ça n'est plus constamment sur toi. C'est plus quelque chose qui est constamment à te penser dans ta tête à chaque fois que tu as cette personne face à toi. Tu as toute cette énergie émotionnelle qui revient sur toi, tu es en colère. Quand tu pardonnes, c'est pas nécessairement oublier, mais c'est dans une attitude où je dis « Ok, eh bien, je tiens ton offense pour non avenue. Je ne te demande pas des comptes. » Bien sûr, il y a une différence entre le pardon humain et le pardon divin. Le pardon humain est une grâce comme le pardon divin. L'offenseur n'a pas le mérite, comme nous ne méritons pas le pardon de Dieu. Mais la repentance de l'offenseur n'est pas un prix qu'il doit payer pour qu'on lui pardonne. Dieu n'a pas attendu qu'on vienne lui demander pardon pour faire un chemin vers lui. Il l'a fait d'abord. Si on veut aider quelqu'un qui chemine dans une démarche de pardon, on doit pouvoir respecter son état émotionnel et pas pousser cette personne trop vite vers la réconciliation. Il y a des étapes, un processus. C'est le Saint-Esprit qui va agir. Alors, c'est quoi le but du pardon dans tout ça? Eh bien, le but du pardon dans la vie, c'est bien sûr de pouvoir avoir une intimité profonde avec Dieu. D'abord et avant tout, de pouvoir vraiment pouvoir se tenir devant lui et de pouvoir juste profiter de cette relation-là. Mais ça va nous permettre aussi d'avoir une vue plus équilibrée de la situation. De pouvoir vraiment voir la chose avec plus d'objectivité. D'arrêter d'être polarisant, méchant, gentil. Ah non, ok. Je vois cette personne, je vois ses souffrances, je vois ses circonstances. Et le pardon, ça amène de l'empathie dans nos vies. Ça amène parfois à notre plus grande surprise de la compréhension dans les actes de la personne en face. Pas parce qu'on aurait fait la même chose, pas parce que cette personne, ce qu'elle a fait, c'est juste, mais c'est parce qu'on comprend de là où elle vient, les choses qui ont été semées dans sa vie, et on se dit, ah oui. Je vois par quel chemin son cœur a été tiré vers cette offense. Alors bien sûr, ça va enlever les sentiments négatifs qu'on a vers celui qui nous a fait du mal, et ça va augmenter la compassion. Et bien sûr, c'est le moment où on dit, ok Seigneur, moi je te laisse cette idée de restitution, c'est à toi que je la donne. À la fin, pardonner, ça inclut l'autre personne, je le crois vraiment, ça inclut la personne qui nous a offensés, mais c'est surtout entre nous et Dieu. C'est les deux. Alors je veux bien que ce matin, on puisse vraiment se mettre devant Dieu. Qu'on puisse sincèrement se mettre devant Dieu pour un peu réfléchir sur le message qu'il nous a apporté ce matin et se dire, ok Seigneur, est-ce que moi j'ai reçu ton pardon? Est-ce que moi j'ai reçu ton pardon ou est-ce que parfois encore je sens un sentiment de honte par rapport aux choses que je fais, que j'ai faites, que je vais faire? Est-ce que moi parfois je n'ai pas expérimenté à fond le pardon que tu as donné à la croix? Et puis deuxième étape, c'est pouvoir se mettre devant Dieu et dire, Saint-Esprit, tu vois là mon cœur, s'il y a un manque de pardon quelque part, viens l'éclairer dans mon cœur, que je puisse te le donner, que je puisse te le laisser faire. Vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il ne faut pas le faire, il faut juste le dire à Dieu, et lui fera le reste, je le crois sincèrement. Prions. Père Céleste, on est vraiment heureux et content de ta parole qui éclaire vraiment les choses dans nos vies. Seigneur, ta parole a été très claire ce matin, on veut recevoir ton pardon. Merci Seigneur, parce qu'à la croix, notre honte, nos péchés ont été crucifiés avec toi. Tu as porté, Seigneur, toutes les choses négatives de nos vies. Et s'il y a quelqu'un ici qui se sent encore condamné par l'ennemi dans le nom de Jésus, je chasse tous les mensonges de l'ennemi. Suis la vie de chaque personne ici. Je proclame la liberté de Jésus en ce lieu. Merci Seigneur, parce qu'on a le salut de notre âme à travers ta croix et aussi la rédemption de nos péchés, Seigneur. Nous sommes purifiés par ta croix et nous venons vers toi dans ta présence, Père Céleste, dans le nom de Jésus, avec des mains pures. Et c'est vers toi qu'on veut recevoir entièrement le pardon que tu nous as donné. Viens établir ce pardon dans ma vie, Jésus. On peut se pardonner tous. À 100%, on veut recevoir le pardon que tu as donné pour nos vies. Seigneur, aussi, il y a peut-être des gens qui nous font du mal autour de nous, des situations qui nous accablent, Seigneur, qui sont difficiles. Seigneur, viens vraiment nous muscler au niveau de notre pardon, qu'on puisse vraiment commencer à mettre en place, Seigneur, cet exercice de pardon dans nos vies. Seigneur, s'il y a des gens envers qui on a encore des sentiments négatifs, Seigneur, j'attends pas un coup de baguette magique, mais à la puissance transformatrice de la croix dans nos vies. Alors Seigneur, il y a peut-être des gens où on est devant et on dit, je ne peux pas le pardonner, Seigneur. Cette personne m'a fait trop de mal, cette situation me fait trop mal. Mais en étant soumis à toi, Seigneur, on veut commencer à pratiquer le pardon parce que toi, tu nous as pardonné en premier. On veut être des imitateurs de toi, Seigneur. On se met devant toi et on veut dire aux gens qui nous ont fait du mal, on les pardonne, Seigneur. Je pardonne aux frères et aux sœurs qui auraient parlé en mal de moi. Je pardonne aux gens, à ma famille, mes proches, mes amis, qui auraient voulu avoir des comportements négatifs. Dans le nom de Jésus, je pardonne. Merci Seigneur, parce qu'on peut vraiment pratiquer ce pardon en sachant que tu nous donnes une force par ton amour. Seigneur, tu veux que absolument rien nous empêche d'avancer. Rien nous empêche de grandir en intimité envers toi, qu'on puisse vivre des vies épanouies. Seigneur, s'il y a des couples qui doivent pratiquer le pardon, je prie que tu puisses juste mettre quelque chose de nouveau dans leur cœur, Seigneur, un nouvel espoir, une nouvelle passion pour le pardon. Que ça puisse être la première chose qu'on se voit, un pardon mutuel, Seigneur. Vraiment, Seigneur, viens amener quelque chose de nouveau. Tu viens souffler, Saint-Esprit, sur les cœurs ce matin. Merci, Père Céleste. Amen. Amen. Je voudrais bien qu'on passe peut-être quelques minutes, chacun dans son cœur, et on va chanter un chant ensemble, mais qu'on puisse peut-être, si vous voulez, vous pouvez rester assis, vous tenir debout, juste pouvoir se mettre dans cette attitude de cœur et dire, ok, moi je veux pardonner à cette personne-là que le Seigneur m'a mis à cœur. S'il y en a peut-être qui veulent la prière, vous pouvez vous avancer pendant ce moment-ci, parce qu'à l'aimant, on veut vraiment prier avec vous et mettre